soul,
jazz,
hip hop,
folk,
reggae,
rock,
disco,
blues,
funk,
punk,
samba, metal, rap, electro, dub, grunge, grime, R&B, house, techno, folk.
Voyage immobile.
Installez-vous confortablement et préparez-vous pour une exploration musicale à la découverte de paysages sonores méconnus.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio MDM pour la 17e émission de Voyage immobile. Après quelques mois de rediffusion et de procrastination intensive, on est de retour en force pour une émission inédite, émission qui sera consacrée aujourd'hui à la French Touch.
Et oui, la French Touch, donc, qui est cette version française de l'électro, techno, house, qui existe toujours, bien évidemment. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être vu passer dans les infos que ce vendredi 29 mars dernier, il y a eu un festival illégal à Quimper sur un aéroport qui a été vivement réprimé par la police, qui ont mis plus de 12 000 contraventions aux fêtards qui étaient venus participer à cet événement.
Et pour expliquer cette culture de la rave à la française, on va revenir un petit peu en arrière aux origines, contexte.
On commence donc notre histoire non pas en France mais en Angleterre, où en 88 et 89, il a eu ce qu'on a appelé le Second Summer of Love et qui a vu l'émergence d'énormément de rave parties où les jeunes Anglais passaient énormément de techno de Détroit, beaucoup de house de Chicago comme on en entend là de suite. Et c'était vraiment tout un mouvement culturel que ces premières rave parties en Angleterre, avec bien sûr l'arrivée de la musique électronique et aussi combiné à l'arrivée de l'ecstasy.
Tout ça à la période aussi avec Margaret Thatcher qui est au pouvoir, qui ferme énormément de mines, donc énormément de chômage. Pour les jeunes anglais de cette époque-là, c'est aussi un moyen de s'oublier, d'aller danser et donc évidemment prendre aussi la nouvelle drogue, les nouvelles drogues synthétiques qui arrivent sur le marché.
Et oui, c'est vraiment un mouvement populaire comme l'a pu être avant le punk par exemple, qui va rassembler énormément de personnes d'origine très différentes, donc des skinheads, des rastas, des punks, des hippies. Et tout le monde va venir se rassembler autour de cette nouvelle musique en Angleterre.
D'ailleurs, le terme « to rave » en anglais signifie « délirer », donc c'est là où tous les jeunes se retrouvent, ils viennent souvent déguisés pour danser. C'est très optimiste comme mouvement. Il y a des rêves qui apparaissent un peu partout dans le pays, notamment à Manchester avec la Hacienda et le Choum à Londres, en sachant qu'il y a déjà quelques Français qui sont sur place et qui découvrent le style à l'époque, donc en 89 à peu près, dont un certain Laurent Garnier.
Et c'est sûrement sur ce genre de morceaux comme ce French Kiss de Lil Louis qu'on est en train d'écouter que des Français comme Laurent Garnier ont découvert cette musique en Angleterre avant de les ramener chez eux en France.
Voilà ce qui peut nous donner un petit aperçu des raves à la fin des années 80. Donc c'était French Kiss de Lil Louis qu'on s'est écouté donc en 1989. À savoir donc que tout ce type de musique dans les raves était énormément inspiré de la house, de la techno, notamment de Détroit, Chicago et New York.
Mais bien évidemment, assez vite, le gouvernement ne voit pas ces rassemblements d'un très bon œil, surtout le gouvernement Thatcher évidemment. Et donc il y a eu des lois qui ont interdit tout rassemblement de plus de 100 personnes autour de la musique répétitive, je cite, voilà, donc qu'est-ce que cela veut dire, on ne sait pas exactement, mais l'esprit de la loi était bien évidemment d'empêcher ces rêves partis.
On va demander aussi au gouvernement tchétchène, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'ils suppriment aussi, ils interdisent la musique répétitive au-dessus de 120 BPM, je crois.
Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est exactement ce même style de loi. Et donc, évidemment, ça a eu un impact sur toute cette scène anglaise qui a soit qui s'est illégalisée, soit qui s'est tout simplement arrêtée.
Oui, il y a eu beaucoup de répression juste après donc, ces déclarations de Thatcher et puis la loi qui est passée en 1994, interdisant toutes ces musiques répétitives. Donc la police et les forces de l'ordre ont souvent... réprimer les jeunes teufeurs dans ces années-là puisqu'ils se mobilisaient dans des endroits de manière illégale, notamment à côté d'une autoroute bien précise à côté de Londres. Ce qui oblige évidemment donc tous ces gens-là, et en particulier les producteurs, les artistes et les organisateurs, à s'exporter à l'étranger, donc juste à côté, donc en Europe, en particulier en Allemagne, en Italie, en Belgique et en France. On se retrouve donc en France à la fin des années 80, 89-90, où tous ces DJ, producteurs et organisateurs anglais principalement arrivent en Europe et donc en France, pour ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, notamment à Paris. Donc les Français découvrent de nombreux titres et découvrent la techno, la house, notamment le titre qu'on est en train de s'écouter en fond, qui est un morceau de Jeff Mills, un mec de Détroit qui faisait de la techno dans les années 80. Et à partir de là, à partir de cette découverte d'un nouveau style, de nombreux Français, de nombreux organisateurs à Paris décident de se lancer dans l'aventure. Ce qui crée vraiment une émulation de toutes parts dans tous les quartiers et après qui va évidemment s'étendre en province.
On peut voir dès 89 l'apparition du premier label de musique électronique française, le label Rave Age, qui est monté par Manu Casana. Et à partir de là, on va avoir les premières rave parties en France et les premiers clubs aussi qui vont passer cette musique.
Oui, on a pour commencer le Rex Club qui organise les premières soirées, donc les soirées appelées Jungle. Et un peu plus tard, ça sera les soirées Space. C'est créé par notamment donc, Laurent Garnier qui lui arrive avec tous ses Anglais vu qu'il était là-bas déjà de base. Il y a aussi Eric Morand qui crée ces soirées avec lui, co-organise ensemble ces soirées-là.
Et on a aussi des radios qui commencent à diffuser ces titres et des gens, des DJ qui viennent mixer sur les radios. Il y a notamment Radio FG, mais aussi assez vite Radio Nova va faire une grosse part à cette musique électronique.
On a aussi Luc Bertagnol, qui est donc l'associé de Manu Casana au label Rave Age, avant de partir en solo, qui décide d'organiser des soirées qui s'appelleront les soirées Mosinor, qui se trouvent en fait au dernier étage d'une usine à Montreuil. Et ça va se dérouler d'avril à décembre 1991. Donc en fait, tout ce qu'on est en train d'énumérer là, c'est vraiment les tout débuts. La plupart des soirées essayent d'être faites de façon légale, mais c'est aussi un peu compliqué. À chaque fois, les lieux sont investis, puis les soirées s'arrêtent au bout de quelques mois. Donc c'est vraiment les balbutiements, on va dire les tout débuts de la rave en France. Alors au début des années 90, en 91-92, les rave parties commencent à être de plus en plus grandes. On compte des fois parmi plus de 5000 tuffers dans ces rave parties. Il y a les médias, notamment Libération avec Eric Dahon qui crée en fait toutes les semaines ce qui s'appellera les messes blanches, où il décrira ses soirées de rave parties le week-end pour donner envie aux jeunes d'y aller. Et il donnera ensuite des indices pour pouvoir aller aux autres rave parties. Tout ça combiné avec les radios qui se mettent à l'électro, les nouveaux journalistes, les jeunes journalistes qui passent de plus en plus de sons et chroniquent de plus en plus les artistes de techno. Ça va arriver jusqu'aux oreilles de la FNAC, qui va penser peut-être à s'y mettre eux aussi et à essayer de capitaliser sur ce nouveau son.
Et oui, et donc ils vont décider d'ouvrir une branche dédiée à la musique de dance, comme ils appellent ça, donc c'est la FNAC Music Dance Division. Et la personne qui va s'en charger, c'est quelqu'un qui s'appelle Eric Morand. Eric Morand qui travaillait déjà dans la maison de disques Barclay et qui va donc déménager à la FNAC, qui va s'entourer de Laurent Garnier, encore lui, pour sortir tout d'abord des sons de labels étrangers et pouvoir les éditer en France. Et puis ensuite, évidemment, les musiques de Laurent Garnier, tout d'abord, qui sera le premier artiste signé sur ce label. Ce qui était intéressant pour eux, c'est qu'ils avaient complètement carte blanche musicalement. La FNAC leur les laissait faire exactement ce qu'ils voulaient. Donc au début ça commence assez doucement, les ventes sont pas énormes, sûrement que la FNAC s'attendait à bien plus que ça. Ils sont pas aidés aussi par leur décision de communication, ils marketent les albums de manière assez classique avec les photos des artistes sur les pochettes, voilà ce qui est... Ce n'était pas en fait forcément ce que recherchait le public techno house de cette époque, mais finalement quand même la musique qu'ils vont produire eux va prendre le dessus et ils vont avoir quelques gros succès en 93.
Notamment le morceau qu'on va s'écouter maintenant, qui est un morceau de Lunar Asylum, qui est sorti en 1993, qui s'appelle Meltdown. Et ça sera un des premiers vrais succès de la division Dance de la Fnac, vendu à plus de 30 000 copies en seulement quelques mois. On s'écoute ça de suite. Et c'est donc avec ce titre de Lunar Asylum que la techno à la française arrive dans les bacs et dans les oreilles de la plupart des Parisiens à l'époque, dans les années 90. À cette époque-là, donc, il y a une prolifération d'artistes, de producteurs, beaucoup de soirées rave. De plus en plus de gens écoutent ce style de musique, aux grandes dames des médias, en particulier l'Humanité, qui fera trois papiers dénonçant ce nouveau type de musique, l'associant alors à la fois avec les nazis, et associant aussi le style à la drogue et à la perdition de la jeunesse française.
Et à peu près au même moment que ces papiers sortent, donc autour de 1994, la FNAC décide d'arrêter sa branche dance. Et donc, directement après, Éric Morand et Laurent Garnier, qui en étaient responsables, décident de lancer leur propre label indépendant qu'ils vont appeler F Communication. Alors F, c'est le F de la France. D'ailleurs, leur logo, ce sera le F dans l'ovale qu'il y avait derrière les voitures françaises. Mais c'est aussi, ça va avec leur slogan qui est « After E comes F », donc après E, il y a F. E faisant référence à l'ecstasy, c'est une manière de dire que, au final, le plus important dans la musique techno, bah, c'est la musique. Et donc la musique qui sortira sur leur label.
Label qui a signé énormément d'artistes, d'ailleurs des artistes qui étaient déjà repérés par la division dance de la FNAC. Donc c'est les pionniers de la techno française. On peut citer Guillaume Latortue, Jacques de Marseille, Olivier Le Castor, Jérôme Pacman et Tutti Quanti. Et donc tous ces artistes-là vont venir après sur F Communication, qui eux vont être très malins aussi. Ils vont vraiment axer le côté techno-française dans leur logique commerciale. Notamment d'ailleurs parce qu'il y a une loi qui était passée entre temps sur les quotas de musique française à la radio, donc il fallait absolument avoir un pourcentage de textes en français pour pouvoir passer à la radio. Ce qu'ils n'ont pas hésité à faire, ils ont donc sur des morceaux de 7 minutes, en général ils ont une introduction de 1 ou 2 minutes avec des textes en français pour pouvoir passer à la radio, et après c'était exclusivement de la techno française. Et c'est ce que a très bien compris Laurent Garnier d'ailleurs, qui a sorti son premier album sur F Communication en 1994.
Et donc ce premier album s'appellera Shot in the Dark, et on va de suite s'en écouter un extrait. C'est la chanson qui ouvre l'album, qui s'appelle Shapes Underwater. I'm gonna go get some more.
est alors en 1994 et le titre qu'on est en train de s'écouter de Laurent Garnier passe sur les ondes notamment de Radio Nova et de Radio FG. C'est un premier album assez fondateur dans la techno française, produit et sorti par le label F Communication. Et ça a donné beaucoup d'idées à d'autres gens du milieu. Il y a beaucoup de labels qui vont se créer et se démarquer par leurs différences dans la techno française, mais tout en gardant un peu cette identité-là. On va avoir du côté hardcore notamment un label très important qui s'appelle Epithet, qui lui se concentrera donc sur le côté hardcore très industriel de la techno. Il y aura aussi d'autres labels qui vont se créer un peu partout en France, en province, notamment à Marseille, à Nîmes, à Montpellier et un peu plus tard en Bretagne. Il va y avoir beaucoup d'artistes et de producteurs qui vont apparaître et qui vont essayer d'imposer leur identité propre.
Et nous, pour l'instant, on va se concentrer sur un artiste qui a un style un petit peu différent, en tout cas à ses débuts. Il s'agit de Philippe Zdar. Donc Philippe Zdar, il a commencé dans les années 80 en tant qu'ingénieur du son. Il a travaillé, il était un peu le protégé de l'ingénieur Dominique Blanc-Francard, ingénieur qui lui a présenté son fils Hubert Blanc-Francard, qui se fera appeler plus tard Boom Bass. Et donc Philippe Zdar et Boom Bass vont commencer à faire de la musique ensemble. Ils ont un côté très hip-hop, et c'est la musique qui les passionne à leur début. Et c'est pourquoi ils vont, en 90, envoyer plusieurs de leurs productions à MC Solar, qui est en train de réaliser son album Qui sème le vent récolte le tempo. Et il se trouve que certaines de leurs chansons vont être retenues, ce qui va leur ouvrir pas mal de portes, et ils vont pouvoir publier un EP à eux sous le nom de La Funk Mob. Et donc là, on a vraiment une musique qui est entre cette musique techno et le hip-hop. C'est un EP donc, qui sera publié sur le label britannique Mowax et qui s'appelle Tribulation Extrasensorielle. On va vous en faire écouter un extrait qui s'appelle La Doctoresse. Thank you.
Vous êtes sur Radio MDM avec la Funk Mob et son morceau La Doctoresse, sorti en 1994. On en est donc vraiment au moment où la French Touch s'impose en France, mais surtout en Angleterre et à l'étranger. D'ailleurs, le terme French Touch vient des médias et des critiques spécialisées anglaises qui qualifient donc ce nouveau son techno à la française. Ce qui aurait fait malheureusement pour la suite donc, d'avoir des excès un peu sur ce côté business, de catégoriser toutes les types de techno françaises, donc de French Touch, pour pouvoir faire vendre de plus en plus, mais ça on y reviendra après.
Nous on va enchaîner avec le duo suivant de Philippe Zdar, donc non plus avec Boom Bass mais avec Étienne de Crécy. Et la jeunesse de ce groupe en fait, c'est que Philippe Zdar, donc après ce succès, commence à travailler au studio Plus 30, donc toujours en tant qu'ingé son, hein, bien sûr, pour l'instant. Et pendant les sessions de l'album suivant d'MC Solar, donc Pros Combat, il va montrer au DJ d'MC Solar, donc Jimmy J, les sons sur lesquels il bosse avec son pote Étienne de Crécy. Et Jimmy J en fait va les encourager à aller là-dedans. C'est un son qui est beaucoup plus techno que ce qu'on écoute de la Funk Mob. Et ça va, l'album qu'ils vont finalement produire sous le nom de Motor Bass deviendra un énorme classique du style. Donc c'est l'album qui s'appelle Pan Soul et on va s'écouter un morceau qui s'appelle Ezio.
On est maintenant à la moitié des années 1990, 1996 exactement, pour ce morceau de Motor Bass, et on est bizarrement à l'apogée de la répression du gouvernement français envers ce nouveau style de musique. notamment en 95 où le ministère de l'Intérieur sort carrément un papier avec écrit donc les soirées rave des situations à haut risque qui vont distribuer à toutes les mairies et expliquant que donc les soirées rave et la techno en général est un perturbateur sur l'espace public et qu'il faut l'interdire le plus possible. Ça ira même jusqu'à ce que le Quai des Orfèvres, donc les renseignements intérieurs français, demande aux dirigeants de Radio Nova, Radio FG et de Libération de venir en entretien pour les renseignements intérieurs, les accusant donc de pervertir la jeunesse avec ce nouveau style de musique.
Et c'est pourtant un moment où la scène électro-française est en pleine effervescence. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on va voir l'émergence d'un duo qui est bien connu, c'est évidemment les Daft Punk. Donc, duo composé de Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter, ils vont commencer en faisant de la musique dans la chambre de ce dernier avec voilà, le peu de machines qu'ils avaient, et ensuite évidemment passer leurs morceaux dans les différentes soirées, dans les différents clubs beaucoup, et ils vont développer un style et surtout un son bien propre à eux. Ils vont sortir un premier single en 94, mais surtout un deuxième en 95 que je pense tout le monde connaît, c'est Daft Punk avec en face B Rolling and Scratching. Et là, je parlais juste avant de l'importance du son. Ça a notamment un peu révolutionné la façon de mixer, surtout de mixer la grosse caisse, donc le kick, qui va être ultra compressé. Et musicalement, c'est aussi assez original. On va s'écouter le morceau Daft Punk dans quelques instants. Et ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est que pour Thomas Bangalter, lui, il trace les origines de ce son au fait que, à ce moment-là, ça faisait un mois qu'il n'arrêtait pas d'écouter que de la G-Funk. C'était l'album Regulate de Warren G venait de sortir. Il écoutait que ça, et pour lui, c'est ce qu'il a mis dans ce son. Et il est très étonné que personne n'ait remarqué que c'était ça la référence. Et en même temps, c'est un peu normal puisque c'est passé à travers le filtre de leur musique très influencée par la house et la techno. Donc voilà, on est en 95 et on va s'écouter cette révolution qui est Daft Punk de Daft Punk.
1995, la même année que le morceau Da Funk de Daft Punk, sort l'album Boulevard, le premier album de Saint-Germain sorti sur F Communication, qui va être une nouvelle mode de techno à la française qui sera appelée plus tard l'easy listening ou le downbeat, qui sera un mélange donc de soul, de jazz, de blues, mais surtout encore une fois de techno à la française.
Saint-Germain, donc, de son vrai nom Ludovic Navarre, a commencé au début des années 90. Il a cherché dans beaucoup de styles, il a fait beaucoup de petites productions sous plein de pseudonymes différents. Et d'ailleurs, ça sortira sous une compilation quelques années plus tard qui s'appelle From Detroit to Saint-Germain. Et puis, au final, il va s'arrêter sur, alors à la fois déjà ce nom de Saint-Germain, qui fait à la fois référence à Saint-Germain-en-Laye, qui est sa ville natale, mais surtout à Saint-Germain-des-Prés, qui est le quartier parisien connu pour ses clubs de jazz. Et c'est vraiment la direction musicale qu'il va prendre en mélangeant ses programmations et sa production nourrie de musique électro à du jazz. Et pour ce projet Boulevard, il va faire venir des musiciens, donc il va leur demander d'improviser. Il y a un pianiste, un saxophoniste, un trompettiste. Il va leur demander d'improviser sur lui, sa musique électronique. Et c'est ça qui va créer le son de cet album Boulevard.
Boulevard, l'album de Saint-Germain dont on est en train d'écouter un des morceaux qui s'appelle Street Scene, sera vendu donc à plus de 200 000 exemplaires dans le monde. C'est donc un des pionniers de la French Touch downbeat, downtempo, un peu easy listening, c'est-à-dire mélange de jazz, blues et de techno.
Et un autre artiste qui a pas mal surfé sur cette vague du easy listening, c'est quelqu'un qui s'appelle Dimitri From Paris. Alors lui, il est là depuis vraiment les tout débuts. Il était notamment DJ en radio. Il a commencé sur Skyrock, puis il est assez vite passé sur Energy. Et il a énormément mixé de plein de styles différents. Et là, donc on est entre 95 et 96. Et il décide qu'il va faire un album où le concept c'est de reprendre tous les clichés de la France, de jouer à fond le côté français et parisien. Et il va le faire dans ce style très calme, en reprenant notamment des samples de bossa nova, des samples de jazz. Et l'album qui va en découler, donc qui s'appellera Sacre Bleu. Alors c'est vraiment ultra kitsch, il y a la tour Eiffel sur la pochette, on en est là quoi. Et ça va hyper bien marcher à l'étranger. Et voilà, vraiment à l'étranger on va parler de French Touch. Et c'est commercialement là où la French Touch va prendre son essor. Alors l'album est vraiment musicalement très calme pour la plupart des titres. Nous on vous en a sélectionné un qui est peut-être celui qui ressemble le plus à de la house. C'est un morceau qui s'appelle Le rythme et la cadence. Et donc c'est extrait de l'album Sacre Bleu de Dimitri From Paris.
Apprenons le rythme et la cadence. Et la cadence. Apprenons le rythme et la cadence.
Voilà déjà à la fin de notre émission consacrée à la French Touch, sujet beaucoup trop vaste pour une seule émission, donc on en fera une deuxième qui sera prévue dans 2 semaines et qui se concentrera sur la deuxième vague de la French Touch au début des années 2000 avec la création du label Headbanger.
Et pour aujourd'hui, on se quitte donc à l'apogée de la première vague de la French Touch avec en 1998 le morceau Music Sounds Better With You du groupe Stardust. Stardust, c'est un groupe qui est composé de Thomas Bangalter de Daft Punk avec Alan Brax et le chanteur Benjamin Diamond. Ce morceau qui est construit sur un sample de Chaka Khan, et aussi sorti sur le label de Thomas Bangalter, le label Roulé, parce que oui, les deux membres de Daft Punk ont chacun créé leur propre label, et donc pour Thomas Bangalter, c'est Roulé. Ce titre va devenir un tube international, et on va donc finir aujourd'hui l'émission là-dessus. On se retrouve donc dans 15 jours, et d'ici là, on va préparer quelques petites playlists consacrées aux pionniers de cette scène dont on n'a hélas pas pu vous parler aujourd'hui, faute de temps.
À bientôt.
Ciao.
Yeah.